Voyage au bout du monde. Une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Allez, enfilez vos chaussures de randonnée, peut-être un vêtement de pluie. Nous partons tout de suite sur le GR34, à la suite d'Éric Montargès et Jean-Luc Dicquelou. Éric Montargès, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu à Laval le 10 janvier présenter le film de votre périple dans le cadre des conférences Altaïr. Alors souvent, ce sont des destinations lointaines et exotiques auxquelles nous invitent ces projections. Là, nous jouons la proximité avec quand même un petit peu, parfois, un parfum d'exotisme hein, quand même.
Absolument. Avec Jean-Luc, on avait réalisé il y a quelques années un film sur les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc sur le même principe, chemin de randonnée, mais sans que ça soit un film de randonnée. Nous voulions surtout, c'était le prétexte, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des bergers, de tous ces gens qui font la région des Pyrénées. Et En réfléchissant, se poser la question justement de savoir sur quoi on pourrait enchaîner. Et comme nous sommes bretons tous les deux, Jean-Luc lui est bigoudin, donc là c'est le vrai breton, pur beurre. Et tout de suite l'idée est venue de faire connaître la Bretagne par le Sentier des Douaniers, qui est un sentier historique, qui est à la fois connu, très, très emprunté, mais il y a toujours cette part de mystère autour de l'histoire du sentier douanier du GR34. Et donc, ça nous a intéressé de pouvoir réaliser quelque chose et montrer la Bretagne sous un angle un peu différent.
Et c'est vrai qu'effectivement, ce film, hein, même si on a l'impression, oui, de connaître et d'avoir arpenté la Bretagne un peu dans tous les sens, hein, ce film arrive à nous surprendre et puis à régaler aussi avec les paysages qui sont magnifiques de la Bretagne. Et effectivement, vous parlez d'histoire, hein, parce que vous introduisez en fait avec un petit côté un peu historique qui n'est pas inintéressant. Alors, effectivement, ce GR34, c'est le chemin des douaniers et c'est le sel.
Oui, tout à fait. On a essayé justement de mettre quelques grains d'histoire, de tradition aussi. Alors on commence au Mont-Saint-Michel, on raconte un petit peu très rapidement l'histoire. Et puis ensuite, l'historique du chemin du sentier des douaniers, à travers l'histoire, à travers les différents personnages historiques, les villes, Saint-Malo, Brest, etc. Et ça nous semblait plus intéressant de faire ça plutôt que de faire un film de pure randonnée où voilà, on se filme en train de marcher, etc., ce qui aurait été peut-être un peu austère pour les non-randonneurs, en tout cas, puisqu'il y a beaucoup de randonneurs qui viennent voir le film, mais il y a aussi tout un chacun qui peut découvrir ce sentier. Donc ces petits points d'histoire, ces petits points de tradition nous semblaient intéressants pour mettre un petit peu de peps, un petit peu d'ambiance bretonne.
Oui, d'authentique. Hein.
Exactement, ouais. D'authentique dans toute cette épopée.
Et c'est vrai, vous l'avez souligné, Éric Montargès, c'est aussi un périple avec des rencontres. Et ça, c'est important. Autant précisément quand j'interviewe les conférenciers qui vont en Amazonie, en Indonésie, on parle des peuples. Là, je me disais, mais on va peut-être pas parler du peuple breton. Ah bah si, on arrive quand même à parler des autochtones. Eh oui.
Les autochtones, bravo. Sont très importants. Et ça, c'est un petit peu la patte, la marque de fabrique de Jean-Luc, qui est très tournée. D'abord, il est très très attaché à sa région. Et il est très attaché aux gens, justement, de cette région. On avait fait, encore une fois, la même chose dans les Pyrénées. Ça nous permettait de découvrir un petit peu l'âme bretonne. Et ça nous semblait aussi très intéressant d'aller interviewer. Alors, le film est court, évidemment, nous, on a fait beaucoup d'heures de tournage, donc ça a été compliqué de couper au montage ou les interviews qu'on a pu faire. Si vous avez vu les vieux bretons de Brignogan qui nous parlent de l'ancien temps.
On ne comprend même pas toujours tout à fait, d'ailleurs, certains mots. Hein. Presque. Hein.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens. En fait, moi, sur les tournées précédentes, j'étais il y a trois semaines du côté de Lyon. Et les gens aussi ont vraiment beaucoup accroché au fait qu'on aille rencontrer des gens, qu'on fasse parler les gens, qui nous racontent la Bretagne avec leurs mots, avec leurs souvenirs.
Avec leurs tripes.
Avec leurs tripes, oui, tout à fait. Oui, ce sont des gens qui sont très attachés à leur région, très ancrés dans leur région.
Pour certains, d'adoption, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui, mais qui... pour rien au monde quitterait la Bretagne parce qu'ils s'y trouvent bien, parce qu'ils ont retrouvé une certaine authenticité. Et ça, on voulait aussi le mettre en avant. Ça nous semblait vraiment intéressant de faire connaître la Bretagne sous cet angle.
Alors, c'est 2000 km, donc du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire. Donc on découvre tout un tas de facettes de la Bretagne. Peut-être il faudrait parler d'ailleurs des coins ou des régions de Bretagne, parce que la Bretagne n'est pas uniforme. Non. Et on ne parle même pas de l'intérieur, là, encore.
Oui, oui, bien sûr.
On parle juste de la côte.
Il y a plusieurs Bretagnes, effectivement. La Bretagne entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, qui est aussi une partie très, très forte de la Bretagne. Et puis ensuite, on s'éloigne vers le Finistère, à travers les Côtes d'Armor. Donc là, on a une autre identité. Le Finistère, bien sûr, qui est très ancré breton, les Finistériens sont les vrais Bretons. Moi, je suis de Rennes, je ne suis pas un Breton pour les Finistériens.
Voilà, c'est ça.
Oui. Donc ils ont toujours un petit sourire, voilà. Et puis ensuite on redescend dans une autre ambiance qui est le golfe du Morbihan, là, qui est autre chose, où il y a une urbanisation beaucoup plus importante. Il y a paysages différents, bien sûr. Le golfe est assez spectaculaire aussi, mais on a vraiment des ambiances qui sont totalement différentes, avec encore une fois ce bout de Bretagne rugueux, austère, voilà,
graniteux,
violent. De par ses coups de vent, de par ses... Donc c'est une ambiance très, très particulière. Moi, j'aime beaucoup le Finistère. Moi, je trouve que c'est une région vraiment, vraiment extraordinaire. Toute la partie nord avec le pays des Abers, qui est super, presqu'île de Crozon, qui est magnifique. Donc voilà, on a vraiment des ambiances différentes. Alors, le golfe du Morbihan, c'est un peu plus farniente. Il y a un peu plus de soleil dans le golfe. Ils sont un peu plus épargnés des pluies que le reste de la Bretagne. Donc, on y vient pour passer un week-end à la plage, pour faire... Donc c'est totalement différent, mais... La Bretagne, vraiment telle qu'on peut la connaître dans l'imaginaire des gens, ça va être le Finistère, avec ces tempêtes, ces gens, c'est vraiment un coin absolument magnifique.
Que nous découvrons donc vraiment dans votre film, où effectivement, les images, de paysages vraiment nous emmènent dans ces territoires un petit peu différents. Alors quand on parle évidemment de la Bretagne, on ne peut que parler de la mer, qui est un petit peu une base quand même de l'économie locale, avec les pêcheurs.
Absolument, la mer est omniprésente en Bretagne. C'est un pays de voyageurs, c'est un pays de pêcheurs, évidemment, de marins. Donc la pêche est partout, un peu moins dans certaines régions.
Petit peu moins maintenant que par le passé aussi.
Sûr, beaucoup moins maintenant. Il y a eu des crises successives sont passées par là. Donc c'est un milieu un peu sinistré. Mais il y a toujours une forte flotte de pêche. Le Guilvinec, Lorient, un petit peu moins à Saint-Malo, mais ça reste quand même très présent. Donc ça, c'est un élément très, très important, bien sûr. Oui, quand on parcourt le sentier des douaniers, on sait qu'on va à 99% longer la mer, dominer la mer. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement. Et puis, ces paysages marins, cette lumière qui change, et voilà, elle est partout, la mer en Bretagne. Mmh. Oui, absolument. Oui.
Et pour rester sur la pêche, donc en fait, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup la sardine, la langouste aussi, le thon, les huîtres aussi.
Huîtres à Cancale,
ouais.
les fameuses numéros 3 à Cancale, magnifique.
Incontournable,
avec un petit verre de vin blanc, en toute modération. Mais oui, ça reste effectivement, beaucoup de Rennais viennent à Cancale le dimanche après-midi pour s'asseoir sur le port et prendre une douzaine d'huîtres. Ça fait partie un peu de la tradition.
Et puis les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc aussi, si on s'éloigne un petit peu. J'ai découvert quand même quelque chose, c'est l'importance du goémon. On pourrait peut-être s'arrêter un petit peu dessus.
C'est étonnant. Étonnant. C'était un sujet, effectivement, qui était très intéressant à traiter. Donc, on a rencontré Régine. Effectivement, nous, on a appris plein de choses. Effectivement, dans l'imaginaire, on reste alors à la salicorne, qu'on met un petit peu sur les salades. Et puis, bien sûr, la mauvaise réputation des algues vertes l'été, etc. Et là, on découvre justement cette autre facette des algues avec lesquelles on peut faire plein de choses qui sont exportées, vous avez vu, même au Japon. Et ça, c'est aussi effectivement un aliment qui prend beaucoup d'ampleur parce que les gens découvrent les bienfaits, le goût de l'algue, les différents goûts même, puisque effectivement, l'angoustique. Et donc ça, c'était aussi vraiment une grande découverte, oui, tout à fait. Et puis il y a tout un commerce autour de ça, on a vu du côté de Port-Salle, au bout du Finistère Nord, là aussi il y a encore une grosse activité de goémon pour l'industrie pharmaceutique, pour plein de choses. C'était très étonnant. Moi, je connaissais pas bien, et là cette découverte là était vraiment très très intéressante.
Et le goémon, en fait, on est d'accord, hein, souvenir, c'est une espèce de grosse algue immonde, qu'on a envie d'éviter quand on est sur la plage, glissante, qui sont...
Les rochers à marée basse, c'est épouvantable.
Ouais, non.
Et en fait, on en fait plein de choses, c'était une tradition...
Oui, c'est ça, ça remonte.
...des années et des années, oui. Qui a permis à ces modestes paysans du bout de la Bretagne de pouvoir avoir une seconde activité, s'en sortir un petit peu mieux.
Enrichir leur sol, déjà aussi.
Exactement, tout à fait, oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, enrichir le sol, et puis ensuite, eh bien, faire... revendre un peu à l'industrie pour voilà, donc ça c'était quelque chose de très important, ouais. Absolument.
Donc une découverte que j'ai faite grâce à votre film, Éric Montargès. Et puis du coup, puisqu'on parle du goémon, alors je fais le lien avec des images que j'ai dans la tête, la Bretagne, ce sont aussi les fêtes. Et notamment, il y a une fête du goémon assez particulière. Mmh. Alors déjà, il y a une tradition aussi sur le goémon, avant qu'on aille sur la fête. Hein, le goémon qui se récupérait, qui était partagé entre les pêcheurs et...
entre les familles, et effectivement tous les 4 ans, donc ils avaient un partage du goémon, et donc comme vieux monsieur nous le dit, ce qui est tout à fait étonnant, et ce qui fait souvent sourire, rire même dans la salle, c'est que les familles qui avaient des garçons avaient droit à une part de goémon, et pour ceux qui avaient des filles, eh bien ils n'avaient rien. Voilà, donc c'est une vieille coutume que j'ai découvert. Je ne pensais pas qu'en Bretagne, on avait cet esprit-là, mais ma foi.
Voilà, on n'était pas forcément épargnés par la misogynie voilà, on ne va peut-être pas donner de qualificatif, mais voilà. Et donc revenons à cette fête du goémon.
Ouais.
Avec ces énormes tas, en fait, alors c'est difficile, hein, mais vous allez quand même essayer de nous expliquer pour que nos éditeurs visualisent.
Alors, il faut bien se rendre compte, donc, cette fête traditionnelle du côté de Brignogan, qui a été remise au goût du jour il y a quelques décennies, pour faire revivre cette tradition qui était très courante dans la région, mais pas très connue, en fait. Et la journée se passe, effectivement, à aller, dans un premier temps, récolter à la faucille, à marée basse, le goémon, donc ces grandes algues, ces grands laminaires, et qu'on rassemble dans de gros tas, et qu'on va ensuite ficeler, de façon à pouvoir les transporter sur la terre ferme. Alors pour cela, il faut attendre que la marée monte. Donc on attend quelques heures, et ensuite, eh bien, à l'aide de grands pics en bois, à la façon traditionnelle, eh bien, on va ramener ces drômes, donc ces gros paquets d'algues qui font plusieurs tonnes, on va les ramener à la force des bras sur la plage, de façon à ce qu'ensuite ils soient chargés sur les charrettes et emmenés séchés, et plus tard emmenés pour être utilisés. Alors c'est toute une aventure, beaucoup de gens, d'anciens et de moins anciens, puisqu'on a vu dans le film qu'il y a beaucoup de jeunes qui reprennent le flambeau de toutes ces traditions, que ça soit dans les groupes folkloriques, les bagades, ou bien justement dans ces fêtes locales. Beaucoup de jeunes pratiquent aussi cette activité, et donc c'est lieu à une fête, pendant la journée, où bien sûr les touristes sont invités, les touristes sont friands de ça, ou les vacanciers sont friands de ça, parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement sur les côtes françaises, très peu sur les côtes françaises. Donc c'est toute une expérience, toute une organisation avec les costumes, à la bonne franquette. Voilà, il y a toujours une ambiance très, très rigolarde et très amicale dans ce genre de festivités. Donc ça plaît énormément, et c'est aussi une très bonne façon de perpétuer ces vieilles traditions et les remettre, non pas au goût du jour, mais voilà, de faire connaître un petit peu ce qui se passait dans l'ancien temps.
Alors, les traditions, il y a effectivement celle-là, mais vous avez eu la chance aussi, vous, dans votre périple, dans vos 2000 kilomètres, que vous avez fait en plusieurs tronçons, deux tronçons, deux séquences.
On l'a fait sur 5 mois,
ouais.
Puisqu'on avait aussi des obligations professionnelles, et puis il fallait aussi s'organiser pour prendre des rendez-vous avec les gens qu'on pouvait rencontrer, qui pouvaient nous conseiller, et puis aussi par rapport aux fêtes, puisque voilà, il y a des fêtes le 15 août, il y a les fêtes, donc voilà, on a fait en fait en plusieurs parties, donc ça nous a pris au total 5 mois pour essayer d'optimiser vraiment le reportage, donc voilà, donc on est arrivé jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, et puis ensuite on est redescendu. Donc ça s'est fait de façon tout à fait tranquille. Je sais qu'autrement il faut 3 mois non-stop, hein, pour faire ce sentier. Donc là c'est quelque
chose. Alors avis aux amateurs. Et petite parenthèse d'ailleurs, ça manque effectivement, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, ça manque de lieux d'hébergement.
Oui, c'est ce que je répète, c'est ce que on en parlait encore avec des personnes à la fin de la séance qui veulent se lancer sur le sentier. Ça c'est toute une organisation, puisque il y a que vraiment deux cabanes qui soient vraiment logeables, surtout une qui est à peu près équipée sommairement, mais qui est équipée quand même pour pouvoir rester une nuit. Et effectivement, autrement, il faut être soit en autonomie, donc transporter sa tente, son matériel de couchage, donc c'est un poids, c'est une organisation, soit s'écarter du sentier et aller sur un camping, aller chez l'habitant. Donc il faut s'écarter, faire quelques kilomètres en plus.
Oui, ça rajoute.
Ça rajoute, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est toute une expédition, toute une organisation. Donc nous, on a évité ça puisqu'on avait nos camping-cars. C'était la meilleure façon pour nous de réaliser ce reportage puisque nous avons le matériel, nous avons plein de choses. Donc il faut,
oui, c'est ça,
fallait quand même qu'on puisse avoir une base pour pouvoir se poser un peu, regarder les roches le soir, etc.
Ouais, vous organisiez pour aller en stop ou en car rechercher votre véhicule qui était resté.
Oui, tout à fait. Oui, là aussi, j'ai eu pas mal d'interrogations. Les gens ne visualisaient pas bien comment on s'organisait, mais effectivement, voilà, en schématisant, on partait du point A, on allait au point B avec notre véhicule, on revenait au point A en autostop ou en bus, hein, les bus locaux, et on repartait au point B en marchant, voilà, pour, là, pour réaliser notre périple. Et le lendemain, on recommençait point B, point C, etc. etc. Voilà.
Voilà. Donc, ça, c'est sur 2000 km. Et effectivement, cette petite parenthèse, hein, parce que dans votre film, il y a effectivement beaucoup de fêtes. Et je me disais, c'était quand même un heureux hasard que vous ayez pu assister à toutes ces festivités. Il y a effectivement cette fête du Goémon. Et puis, alors du coup, je suis à cheval en fait sur deux. J'ai deux images en fait. Là, je suis un peu perplexe. Hein. Ben, on va peut-être commencer sur les pardons d'ailleurs. Parce que la religion, c'est aussi.
La religion est très importante
en Bretagne.
Très importante. C'est une région qui est très catholique. Et effectivement, les pardons avaient une importance, avaient beaucoup d'importance dans la vie des Bretons. Alors maintenant, ça reste perpétué, mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir les fêtes traditionnelles encore aux estivants, aux gens qui viennent de l'étranger. Donc c'est un petit peu moins d'importance maintenant, comme il est dit dans le reportage. Hein, à l'époque, effectivement, c'était très, très
donc
important.
Le côté tradition l'emporte peut-être un petit peu pour certains sur le côté religieux, vraiment,
tout à fait,
pur.
Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Alors qu'effectivement, au début du siècle, jusque dans les années 50 à peu près, c'était vraiment une fête religieuse très importante. Et une des plus importantes, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est Notre-Dame de Tronouen, près de la Torche. Donc là aussi, encore Finistère, avec un très très beau calvaire qui est un des plus beaux de Bretagne, sans doute même le plus beau de Bretagne. Et là, effectivement, c'est un lieu de pèlerinage qui est très important, alors qui a été un petit peu édulcoré, puisque maintenant c'est le pardon des surfeurs. Donc, comme on le dit dans le film, c'est un peu une certaine hérésie pour certains. Mais ça a permis aussi de pouvoir redynamiser un petit peu cette région et de faire reconnaître ce patrimoine qui est assez exceptionnel. Et puis, la pointe de la Torche étant le paradis des surfeurs.
Ça permet de découvrir qu'en Bretagne aussi, il y a un spot de surf.
Absolument. Hein,
on n'est pas obligé d'aller dans le Pays Basque.
Non. Yes. C'est un spot très, très important avec de très grosses vagues, de très gros vents. Et il y a beaucoup de champions qui participent aux plus grandes compétitions, qui viennent s'entraîner sur les gros coups de vent. Là, il faut être costaud hein, parce que ça souffle fort. Mais effectivement, c'est un des hauts lieux du surf et de la planche à voile aussi en France.
Alors ces fêtes religieuses, et puis il y a à côté, et c'est pas forcément à dissocier d'ailleurs, hein, les bagades, les fêtes, la musique bretonne.
La musique.
Et les danses.
La musique, les danses, les costumes. C'est venu après-guerre, là aussi c'était plus destiné au folklore, plus destiné, voilà, encore une fois, aux touristes, etc. Mais en même temps, ça a permis de faire connaître la culture bretonne à travers sa musique, à travers ses costumes, qui, vous avez vu, sont magnifiques. Chaque région a des costumes, c'est brodé d'une façon extraordinaire.
Oui, on se distingue bien les uns des autres par ça.
Oui, bien sûr.
Et il y avait peut-être un petit peu une surenchère aussi.
Oui, voilà, surtout chez les bigoudaines.
Voilà,
on grimpait de centimètre en centimètre pour essayer de dépasser la copine. Et donc voilà, mais alors, ce sont les fameuses bigoudaines qu'on connaît très bien à travers les publicités. Vous avez peut-être reconnu la petite dame qui joue dans la pub pour des produits sardines, etc. Donc elle était effectivement sur un des festivals à Quimper. Donc il y a les grands festivals à Quimper, à Lorient, qui est connu, le le festival interceltique, puisqu'il est retransmis souvent sur FR3, oui, avec le grand défilé qui est magnifique. Voilà, on a tous les pays celtes qui viennent, donc c'est aussi le nord de l'Espagne, c'est l'Écosse, il n'y a pas que la Bretagne, l'Écosse, l'Irlande, etc. Donc ça regroupe toutes les nations celtes, et ça, c'est très très spectaculaire. Et puis la musique bretonne.
Avec la
bombarde, en
fait, par exemple,
qui crie dans les oreilles, qui a ce son déchirant. Et moi, je sais qu'il y a une petite séquence, justement, à Plouescat, pour à Brignogan plutôt, pour la fête des Gouémoniers, où il y a le monsieur qui joue de la bombarde avec son fils qui est juste à côté, et l'accordéoniste.
Oui, et là, c'est du pur bonheur.
Je tape des pieds, ça dure. C'est presque trop court, je m'en lasse pas. Je trouve que c'est. Voilà, il y a tellement de puissance dans ce son. Alors, bon, bien sûr, tout le monde n'aime pas forcément parce que c'est un son un peu particulier, mais il y a quelque chose.
On se laisse vite emporter quand même.
On se laisse emporter, ça hérisse. Ouais. Et quand on voit tous ces bagades avec tous ces sonneurs, donc ces bombardes, etc., ces bignoux qui arrivent avec ses costumes, avec ses étendards, etc., c'est un spectacle vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, si je peux faire une petite aparté pour les gens qui ont l'occasion de venir au Festival Interceltique de Lorient, il y a bien sûr le grand défilé, mais il y a aussi le Triomphe des sonneurs, donc qui est un grand défilé de tous les sonneurs, donc les bombardes, les bignoux, etc., les grands étendards, et qui défilent dans toute la ville et qui viennent se mettre, qui arrivent en escargot, place de la mairie, place de l'hôtel de ville à Lorient, en fin de journée, avec ce soleil qui frappe sur les étendards en contre-jour un petit peu, et cette musique avec des centaines de musiciens qui jouent, c'est vraiment un spectacle. C'est aménagé avec une sorte d'amphithéâtre, place de l'hôtel de ville, c'est vraiment un spectacle superbe. Oui, vraiment, bon, ça, je conseille ce jour. Je crois que c'est le dimanche, le dernier jour. Enfin, à vérifier, mais bon. Voilà, ouais. Ça, c'est magnifique.
Le dimanche, alors, c'est souvent l'été.
Oui, c'est souvent l'été. J'ai plus les dates en tête.
C'est pas grave, nos auditeurs iront voir.
Je crois que c'est le
Festival Interceltique de Lorient.
Début août, mais voilà.
Voilà. Sans doute l'été. Ce sera une occasion de visiter encore cette Bretagne, dont on a encore un petit peu de temps pour parler. Il y a quelques petits villages aussi que vous nous faites découvrir, notamment Camaret.
Oui.
On connaît par la chanson Les filles de Camaret, mais on le découvre avec vos images, un petit village très coloré.
Oui, tout à fait. C'est un petit port dans le sud de la rade de Brest. C'était la base du Père Jaouen à l'époque, qui avait son bateau qui emmenait des jeunes défavorisés. C'est une petite ville qui a eu beaucoup d'importance au moment de la pêche à la langouste. Bien sûr, comme beaucoup, enfin là, l'économie de la pêche s'est un petit peu effondrée, donc Camaret s'est retrouvé un petit peu démuni. Mais à la grande époque de la pêche, effectivement, il y avait beaucoup de navires qui partaient. Et on le raconte dans le film, il y avait aussi beaucoup de bistrots, c'est une tradition bretonne, et avec ces femmes de capitaines qui servaient un petit peu de banquiers pour les femmes des marins qui avaient besoin d'argent, etc. Donc elles servaient un petit peu de banque, de prêt d'argent. Et c'est une très très jolie petite ville qui est à l'abri, dans une petite anse, à l'abri du vent. Si tant est que dans le bout du Finistère,
on puisse. Oui, voilà.
Mais en tout cas, géographiquement, voilà, c'est un très joli point de départ pour découvrir tout le coin, la presqu'île de Crozon, etc. Donc là aussi, on a Douarnenez, mais on a aussi Camaret qui a énormément de charme, qui est plus petit, qui est un petit peu différent.
Et qui est peut-être moins connu. Effectivement, mais...
Il y a cette fameuse chanson qui reste toujours, mais si on doit la mettre sur la carte, on est bien embêté.
Oui. J'avoue. Mais en tout cas, effectivement, très, très joli. Alors, je remonte un petit peu, je pense. Il y a aussi la pointe de Corsène qui est magnifique,
tout
et qu'on
fait.
Découvre.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas la pointe du Raz qui est le plus à l'ouest de l'Europe.
Oui, voilà, j'ai découvert ça.
La pointe de Corsène.
Vous avez fait tomber un mythe.
Exactement. J'ai souvent eu derrière des remarques là-dessus. Mais on croyait que c'était la pointe du Raz. Non, c'est la pointe de Corsène, ça ne joue pas à grand-chose. Mais voilà, donc c'est... Et là, bon, on est au bout du bout, là aussi, on est face à l'océan. Donc là, c'est avec cette grande rosace qui nous montre un petit peu dans quelle direction se situent les différents points. Et là aussi, oui, c'est un endroit qui est tout à fait. On a une espèce de joie quand on arrive pointe de Corsène. On se dit, ben voilà, on regarde derrière nous. Il y a, voilà, il y a l'Europe entière. On regarde en face. On se dirait, tiens, peut-être est-ce qu'avec du soleil, avec
les Amériques,
est-ce qu'on verrait les Amériques. Mais oui, non, c'est un endroit qui est très géographiquement, qui est très très important et qui symboliquement, qui est voilà, c'est quelque chose aussi d'être à pointe de Corsène. Ouais, tout à fait.
des paysages magnifiques. Il y a un autre petit port aussi, parce que vous en montrez beaucoup, hein, des petits ports charmants et tout ça. Oui. Il y a un autre petit port aussi qui m'a marqué. Alors, je ne sais plus exactement où il se situe, qui a un système d'amarres pour les bateaux assez particulier.
Oui, tout
vous
à
avez
fait.
Le temps de nous en dire un petit mot,
oui,
là.
Alors c'est le petit port de Gwynsegal, effectivement, qui est un port assez intéressant, qu'on découvre du haut des falaises. Et effectivement, on voit ces pieux plantés dans la plage, avec des bateaux amarrés. On se dit, bon, effectivement, c'est assez...
Et puis, ce ne sont pas des pieux pour protéger des vagues, hein, vas-y. Des
troncs d'arbres, oui, qui sont bien enfouis, avec des pelleteuses.
Ils font 3 mètres de haut, un truc comme ça, ou 2 mètres.
Plus que ça, oui. Et plus que ça, et effectivement, c'est tout un travail pour les... Et effectivement, donc, c'est un petit abri sur lesquels les gens viennent amarrer leur petit bateau pour aller pêcher pour la journée, etc. Donc ça, c'est une très très vieille tradition, puisque il n'y a pas forcément de port partout sur les côtes bretonnes, et les gens à l'époque venaient effectivement s'amarrer pas trop loin de chez eux, etc. Donc il y avait tout ce système qui avait été installé, et effectivement ça a servi, donc dire c'est très ancien puisque ça a servi au temps des Vikings,
oui.
Voilà, qui s'en servaient eux pour torturer les pauvres gens quand ils arrivaient des pays nordiques, où ils enchaînaient les pauvres gens sur ces pieux, et puis ma foi, c'était facile, on attendait que la marée monte, et puis ma foi, on était bien obligé d'avouer, on avait caché son maigre butin.
Voilà, bon, tout n'est pas rose, effectivement, dans ce film.
C'est assez cruel.
Voilà, vous rappelez quelques mauvaises histoires. En tout cas, merci beaucoup, Éric Montargès, de ce voyage. Alors, on aurait pu parler aussi des hommes. Alors, vous avez parlé des hommes que vous avez rencontrés, mais on aurait pu parler des corsaires aussi. On aurait pu parler des explorateurs,
oui,
puisqu'ils sont nombreux. Il y a eu beaucoup de trafic, mais dans le sens très positif.
Oui,
d'échanges, on va dire, c'est plus positif, avec la Bretagne et le reste du monde.
Oui, oui, absolument. Ça reste une tradition encore, puisque... On voit, bon, par exemple, la route du Rhum part de Saint-Malo.
Oui,
donc on a
c'est pas pour rien. Oui.
Cette tradition maritime. L'Orient aussi a accueilli énormément de navigateurs du temps de Louis XIV, etc. Et puis Brest aussi, qui a été un grand départ d'expédition, et puis un port militaire très très important. Saint-Nazaire, un petit peu plus au sud aussi. Et puis Brest a été effectivement le départ de nombreuses expéditions vers le Grand Nord, vers la Polynésie. Donc là, c'était aussi vraiment des villes qui sont tournés vers la mer d'une façon très très importante, oui, avec une culture maritime très très forte. Brest est une ville, comme on le dit, on ne passe pas à Brest par le hasard d'un voyage, on y vient. Effectivement, Brest est au bout de la ligne de train, est au bout de tout, donc on a cette démarche d'aller à Brest, qui est une ville qu'il faut redécouvrir, qui autant était restée très austère pendant de nombreuses années après-guerre, bombardée.
Oui, la très mauvaise réputation, en effet.
Ensuite, le port était, voilà, ces ambiances de port avec tout ce que ça engendre, et il y a eu depuis de nombreuses années de très beaux efforts faits par la municipalité, qui a réaménagé le port, qui a fait ce téléphérique, qui a essayé de remoderniser, de remettre un petit peu de vie dans cette
et de couleur. Vous l'appelez Brest la Blanche.
Brest la Blanche.
Alors qu'elle c'était Brest la Grise.
Voilà, et Brest avec sa réputation de la rue de Siam, très connue, avec le vent qui s'engouffre, qui transit les eaux. C'est une ville qui mérite vraiment un détour. Et puis on a toute cette vue sur le port. Le port militaire, qui est vraiment aussi très, très, très intéressant. Et tous les 4 ans, il y a ce regroupement de vieux gréments. Alors, je ne sais pas s'il a eu lieu. C'est vrai qu'avec les mois...
Oui, on ne sait plus trop.
Mais on avait de très beaux rassemblements de vieux gréments dans la rade de Brest. Et c'est absolument superbe. Sur le vieux port, justement, avec des festivités. Enfin, voilà, c'est une très, très belle ambiance. Ouais.
Oui, vous avez raison d'en parler. Parce qu'effectivement, c'était ça, quand j'hésitais à parler des fêtes, je pensais religieuses et... Et ben justement, je voulais parler aussi des vieux gréments, du coup, que j'ai oublié. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des petites fêtes aussi, avec beaucoup de ports où il y a des fêtes avec des vieux gréments magnifiques.
Oui, parce que les gens se sont aperçus dans les années 70-80 qu'il manquait quelque chose dans ces petits ports bretons. Il y avait un patrimoine maritime qui avait été laissé totalement à l'abandon parce que c'était plus au goût du jour, parce que l'économie locale faisait que... Et puis, quelques associations ont eu l'idée de retaper un vieux bateau pour d'abord pour se faire plaisir, pour naviguer un peu. Et puis, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu 10... place. Et l'idée est venue de se dire, bah tiens, pourquoi on n'organiserait pas un festival sur un week-end, voilà, une navigation entre copains. Et puis de copains, c'est venu à voisins, c'est venu à
village. Puis les copains de mon copain.
Et puis les gens sont venus en masse, effectivement, participer à ça, puisque un spectacle de ces vieux gréements. Alors on pense bien sûr au plus beau, on pense au Belém, on pense à tous ces navires extraordinaires. Mais il y a aussi tous ces navires locaux, navires de pêche, qui naviguent et qui sous voile sont magnifiques. C'est vraiment un spectacle superbe de voir toutes ces vieilles voiles, ces vieilles coques naviguer. C'est vraiment, c'est un très très beau spectacle, avec tout ce qui va avec, hein, les crêpes, voilà, la musique.
Mais oui, c'est vrai qu'on aurait pu, parler. Oui, tout à fait. Voilà. Ça nous fait mille et une raisons, voire 2002 raisons, je ne sais pas, d'aller refaire un petit tour en Bretagne. Absolument. Notamment sur ce GR 34, à votre suite, Éric Montargès, où vous étiez donc en compagnie de Jean-Luc Dickelou. Pour ceux qui sont hyper frustrés de ne pas avoir vu votre projection le 10 janvier, là, l'invitation des conférences Altaïr, hein. Comment peuvent-ils procéder pour se procurer votre DVD ?
Alors, ils peuvent m'envoyer un petit mail, eric.montargès, M-O-N-T-A-R-G-E-S, @orange.fr. Voilà, vous pouvez ajouter un petit mot que vous m'avez entendu à l'émission, que vous avez reçu le message, et je leur enverrai le DVD, bien sûr, avec grand plaisir. Le DVD est un petit peu plus long que le film, la projection fait 1h30 à peu près, et le film fait 1h50.
Ouais, il y a les bonus.
Il y a des, voilà, on a mis, puisque là on avait un format de 90 minutes, mais là on a mis d'autres petites choses en plus, donc c'est l'occasion de découvrir autre chose, et puis bien sûr, ce fil rouge, toujours le sentier des douaniers.
Voilà, un beau sentier. Une dernière question, si vous aviez des conseils, parce que là, nos auditeurs, là, qui ont enfilé leurs chaussures tout à l'heure et mis leur vote monde, ils sont prêts. Alors, un ou deux conseils, en dehors des histoires d'hébergement que vous avez évoquées, un ou deux conseils?
Eh bien, on peut partir pour une demi-journée du côté de Saint-Malo jusqu'à Cancale.
Donc ça pour les huîtres, on a compris.
Voilà, bien sûr, on s'arrête pour boire les huîtres à la fin de la journée, par la pointe du Groin, etc. C'est une jolie balade, il y a quelques petites côtes, mais enfin il n'y a rien de bien méchant. Et puis il y a aussi, bien sûr, flâner sur le golfe du Morbihan, donc le sentier est beaucoup plus plat. Il est parfois un petit peu dans les terres, il y a une petite boucle dans les terres, donc ça permet aussi de découvrir autre chose. Et puis le golfe du Morbihan, voilà, c'est une ambiance magnifique avec ces îles, avec ces, et puis pour le côté rugueux, encore une fois, eh bien c'est le Cap Cisin, c'est la presqu'île de Crozon, c'est ce bout du Finistère qui est là, vraiment où on a un peu tout cet imaginaire breton qui ressort cette rudesse du paysage, de la mer, etc. Donc ça, c'est très 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 beau aussi. Donc voilà,
un peu plus sportif,
un peu plus tranquille, un peu plus de soleil, pas trop le dire, mais voilà, c'est le golfe du Morbihan.
Allez vous attirer des ennemis, là, attention.
Souvent, c'est drôle, puisqu'on voit la collerette de nuages qui fait le tour du golfe.
Oui, quand même.
Autant sur le golfe et autour, c'est un peu plus... Bon, voilà. Et puis, ce côté historique qui est intéressant, de Dinard aussi, de Dinard par le barrage de la Rance jusqu'à Saint-Malo. On a une très belle vue depuis Dinard sur Saint-Malo, qui est superbe. Et puis, la flânée sur les remparts, là, c'est aussi... on repart un petit peu dans l'histoire des corsaires, de toute cette... des Anglais qui essayaient de prendre la ville sans jamais y arriver. Enfin, on a tous ce retour bien. Ouais. Et le musée qui cambrogne.
Qui vaut
le détour aussi pour tout ce côté historique. Voilà.
Bon, ben merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes rémunéré par l'Office du tourisme de la Bretagne, par la région Bretagne, mais il pourrait, parce que...
on sent le breton qui ressort.
Voilà, on sent l'amour de votre région.
Absolument.
Un grand, grand merci, Éric Montargès, d'avoir partagé avec nous ces 2000 kilomètres et tout cet amour que vous avez donc pour votre région.
Eh ben, merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, effectivement, j'engage les gens à venir randonner sur le sentier pour quelques heures ou plus, si affinité.
Voilà, il y a 2000 kilomètres, on peut choisir. 2006, exactement, je crois.
2006,
c'est ce que vous avez dit. Voilà. Merci beaucoup, Éric Montargès.
Merci à vous encore une fois.
C'était Voyage au bout du monde. Une rencontre proposée par Isabelle Rupin.